instant la parole de Dieu et on va pouvoir bien sûr après procéder au service du repas du Seigneur et puis continuer ensemble à chanter, à le glorifier et à le louer évidemment. Merci au Seigneur pour ces beaux chants qui nous ont été apportés, qui nous recentraient effectivement sur la personne toute suffisante de Jésus. Abaissé au plus bas, abaissé à l'extrême, mais élevé au plus haut point. L'apôtre Paul dit, il s'est abaissé lui-même, il s'est humilié, dépouillé lui-même volontairement, se rendant lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça qu'il a été souverainement élevé. Personne n'a été abaissé comme Jésus. C'est pour ça que personne n'est élevé comme lui. Et là, il y a un très grand principe spirituel que les disciples, on va en parler ce matin, ont eu bien du mal à concevoir. Ils ont eu du mal à le comprendre tout de suite et à le mettre en pratique. Mais on va le considérer ensemble et le Seigneur les a amenés sur ce chemin, sur cet amour qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est le comble de l'amour. On a commencé dans le cadre de notre étude, une église selon le cœur de Dieu, a parlé de nos relations les uns les autres la semaine dernière avec ce message « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Bien sûr, ce n'était pas un geste pour un geste. Tout est en ligne, les PowerPoints sont à votre disposition aussi. On a bien compris qu'il s'agissait en réalité d'ouvrir son cœur à l'autre, de l'accueillir d'une façon particulière avec une grande estime parce que la personne qui est en face est membre du corps de Christ. C'était un geste d'accueil, de considération qui exprimait, et c'est le principe spirituel qui compte pour nous, qui exprime la valeur de l'autre à nos yeux. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est le principe spirituel qui est derrière. Et puis, ce matin, pour aller dans le même état d'esprit et même aller encore plus loin, j'ai vraiment aussi à cœur de partager avec vous, puisque ça concerne le corps, nos relations les uns les autres. On va retrouver encore ce matin ce « allelon » en grec, qui dans vos Bibles est traduit par « les uns les autres », réciproquement, mutuellement. Tout cela nous montre ce que nous devons être, pas faire, être les uns pour les autres, afin que l'Église reste l'Église au sens où Jésus l'a toujours conçue. On va lire ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et vous allez voir qu'on va être non seulement dans le même état d'esprit que la semaine dernière, mais aller encore plus loin. On va faire un peu plus de lecture ce matin. On va faire trois lectures. La première, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 10. On va prendre quatre versets. On va prendre le verset 41, s'il vous plaît. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 41. On ne sait pas à quel moment exactement ça se passe dans les 3 ans et demi que le Seigneur a passé avec ses disciples, mais je veux vraiment insister sur ce texte parce qu'on va voir que plusieurs mois, pour ne pas dire 1 ou 2 ans après, les disciples n'avaient toujours pas compris ce que Jésus avait dit. Verset 41, Marc 10, 41, « Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. » Dans le contexte, Jacques et Jean viennent de dire « Maître, nous aimerions que tu fasses quelque chose pour nous. On a une petite, mais alors vraiment, mais rien, trois fois rien, toute petit truc, petite faveur à te demander, mais vraiment rien de rien Seigneur. On voudrait juste qu'il y en ait un à ta droite et un à ta gauche dans ton règne pour l'éternité. » C'est rien, on ne demande rien, c'est juste ça. Et quand les 10 ont entendu ça, ils sont indignés. Comment est-ce que Jacques et Jean peuvent avoir des chevilles comme ça pour demander ça à Jésus? Là, c'est très important. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations, qui tyrannisent ces nations, et que les grands dominent, mais il ne doit pas en être ainsi au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit le douléo en grec, l'esclave littéralement, c'est très bien traduit, qu'il soit l'esclave de tous. » On va au chapitre, dans l'évangile de Luc, c'est indiqué ici sous vos yeux. On va au chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22. Verset 24, il s'est passé un certain temps entre ce que Jésus venait de dire et ce que nous allons lire. Et là, par contre, le contexte, on l'a. On est le jeudi soir, c'est la veille de la Pâque, et Jésus, là, va être arrêté dans quelques heures, crucifié le lendemain, ressuscitera le troisième jour. Jésus est sur le point d'accomplir le plan éternel du Dieu trinitaire pour le salut de l'humanité. Il va être abaissé, maltraité, humilié, dépouillé, comme personne ne l'a été. Et voilà le contexte. L'heure est extrêmement sérieuse. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Mais Jésus avait déjà parlé de ça. Mais là, c'est encore plus compliqué parce que ça nous montre à quel point les disciples, dans leur cœur, dans leurs sentiments, leur état d'esprit, sont encore en décalage avec la pensée de Jésus. Jésus leur dit : les rois des nations maîtrisent leur nation et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, ou pour vous selon vos traductions, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui sert, qui est à table ? Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Amen. On fera l'autre lecture dans quelques minutes. Jésus est sur le point d'accomplir l'œuvre ultime de salut. Il va être humilié, abaissé comme personne. C'est la Pâque, c'est l'heure de la croix, l'heure est réellement grave, elle est sérieuse. Et à ce moment-là, malheureusement, alors que Jésus avait déjà expliqué cela à ses disciples, pour eux, c'est toujours pas clair parce que leur état d'esprit, oui, ils connaissent Jésus, oui, ils l'ont reconnu comme Dieu incarné, oui, ils l'ont confessé, oui, ils ont tout quitté pour le suivre. Oui, ils se sont donnés à lui. Oui, 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 sur beaucoup de points. Mais il y a quelque chose encore qui ne colle pas, c'est leur état d'esprit, leur attitude de cœur à l'intérieur. Ils sont encore et toujours en décalage. Ils n'ont pas la mentalité de Jésus. Et une fois de plus, on voit que là, ils ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde que Jésus. La préoccupation des disciples et celle de Jésus n'ont rien à voir. La pensée des disciples est en décalage total. S'élever, prendre, dominer la grandeur. Qui est le meilleur prédicateur ? Qui va être le plus grand pasteur ? Qui verra le plus de miracles ? Qui aura ceci ? Qui aura cela ? Qui sera le plus apprécié ? On pourrait mettre tout ce que l'on veut. Prendre, dominer, solliciter, manipuler, etc. Seigneur, s'il te plaît, les autres n'écoutent pas. On voudrait être à ta droite et l'autre à ta gauche, mais c'est juste entre toi et moi, parce qu'il ne faut pas que l'autre sache ça. Ils sont en décalage total. Et ça, c'est la voix de l'ennemi, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont au Seigneur Jésus, ils lui appartiennent authentiquement. Mais leur attitude de cœur, leur état d'esprit, mais c'est plutôt l'état d'esprit de l'ennemi, c'est-à-dire de s'élever, de prendre, de dominer, une soif de grandeur, un besoin de s'accomplir, de se réaliser, le besoin d'occuper une place, quelle qu'elle soit. Bien sûr, on n'a jamais vu aucun pasteur ou aucun disciple avoir besoin d'occuper une place dans une église, ça n'existe pas, bien sûr. Mais tout ça, en réalité, le Seigneur leur dit, mais comme s'il leur disait, mais il vous manque quelque chose, une seule chose, mais c'est fondamental, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas ma mentalité. Il vous manque encore, malgré tout ce que vous avez de bon, il vous manque mon état d'esprit. Je suis doux et humble de cœur. Et Jésus leur avait déjà dit, c'est pour ça que je vous ai fait lire Marc 10, non pour être servis, mais pour servir. Et ici, c'est la même idée. Vous savez, comme si le Seigneur leur disait, vous savez que je suis le plus grand. Vous savez que je suis Dieu, ça ne vous pose aucun problème. Vous m'avez reconnu comme Christ, comme Dieu incarné, vous m'avez confessé. Et moi, verset 27, je suis bien au milieu de vous comme celui qui sert. Et à leur soif de grandeur, à leur besoin d'occuper des places, le Seigneur va répondre cette fois-ci, pas en paroles seulement, mais il va illustrer pour que vraiment les disciples soient marqués, qu'ils soient même choqués et qu'ils reçoivent la révélation par un exemple imagé de ce que Jésus est en train de leur dire. Et c'est ce qui va nous amener à lire Jean chapitre 13, parce que là, c'est ce que le Seigneur va faire, c'est un enseignement qu'on peut résumer ainsi. C'est dans l'abaissement que se trouve la véritable grandeur. Ça, c'est le principe divin. C'est dans l'abaissement que se trouve la véritable grandeur. Et voilà ce que Jésus va faire, un passage que vous connaissez nécessairement, j'imagine. Jean chapitre 13, on va prendre à partir du verset 1er. Luc ne rapporte pas cet épisode, mais, excusez-moi, je vous rejoins, Jean chapitre 13, j'ai dit, verset 1er, Luc ne rapporte pas cet épisode, mais ça se passe effectivement le jeudi soir. C'est la fête de Pâques et c'est la veille de la crucifixion. On est à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Avant la fête de Pâques, Jean 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, Jésus se leva de table. Jésus avait bien dit, le plus grand, c'est celui qui est à table. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arriva vers Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» Jésus lui répondit, « Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il a dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire ?» Comprenez-vous ce que j'ai fait? Comprenez-vous ma nature profonde? Comprenez-vous qui je suis? Comprenez-vous non pas ce que je veux que vous fassiez, comprenez-vous ce que je veux que vous soyez? Comprenez-vous ma nature? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur et l'apôtre ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Et on descend un petit peu plus loin, toujours au chapitre 13, juste les versets 34 et 35, qui vont être un peu la conclusion. de cette démonstration, je vous donne un commandement nouveau. Verset 34. Aimez-vous les uns les autres, pas de votre amour, pas de vos affinités, pas de vos amitiés, pas de vos cercles, parce que c'est clanique. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous ainsi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour et la démonstration de ce que Jésus définit comme amour vient d'être faite, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez cet amour, on pourrait dire, les uns pour les autres. Amen. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, à combien plus forte raison devez-vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je fais. Évidemment, ici, on a compris que ce n'est pas, comme pour le saint baiser, ce n'est pas le geste pour le geste. Ce n'est pas une pratique à reproduire bêtement. En tout cas, je vous le dis personnellement, sans vous manquer de respect, si vous attendez qu'un dimanche matin, je vous lave les pieds avec une basse, vous allez attendre longtemps, parce que ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Il y a ici une dimension spirituelle à ce que le Seigneur a voulu enseigner à ses disciples, et pour que ce soit fort, pour, excusez-moi, les choquer, ça a été un électrochoc pour eux, il a vraiment imagé cela, et l'idée, c'est évidemment non pas de pratiquer le geste, mais de comprendre la valeur du geste et d'être imprégné de cette pensée, de cet état d'esprit, de cette attitude de cœur. Vous comprenez, on est d'accord, c'est le principe spirituel que nous devons vivre par amour, par humilité, conscient de la valeur de l'autre, de n'importe quel autre dans l'Église, les uns les autres, n'importe quel autre dans l'Église, être animé par l'état d'esprit de Jésus, le renoncement à soi, doux et humble de cœur. La nature profonde de Jésus, c'est l'humilité. Humilité, humus. Humus, le sol. C'est le principe spirituel de renoncer à soi et de s'abaisser, de se mettre au service de l'autre. Ça, c'est la mentalité de Jésus. Les disciples avaient énormément de bonnes choses à leur actif au bout de quelques années de marche avec lui. Mais il leur manquait la mentalité. Ils n'avaient pas l'état d'esprit. Et c'est ce qui faisait qu'ils arrivaient à se chicaner pour des broutilles quand ils en avaient l'occasion. Vous vous souvenez que la semaine dernière, au sujet du Saint-Baiser, je vous ai parlé de deux contre-exemples, notamment un contre-exemple, Luc chapitre 7. À un moment, Jésus est invité chez un pharisien nommé Simon. Et alors que Jésus est à table, il y a une femme qui entre, souvenez-vous, vous relirez Luc chapitre 7. Une femme entre, elle se met aux pieds de Jésus. Et puis, elle commence à pleurer à ses pieds, elle mouille ses pieds de ses larmes et elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux et puis elle va les embrasser, elle va les couvrir de baisers. Et puis, il y a Simon, ce pharisien, qui a invité Jésus, certes, mais drôle d'invitation, puisque en lui, il se dit, si cet homme était prophète, donc déjà pour lui, dans le meilleur des cas, Jésus serait prophète et même pas Dieu incarné. Si cet homme était prophète, visiblement, il ne l'est même pas à ses yeux. Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui est en train de le toucher. Et Jésus, connaissant son cœur, lui dit, « Tu vois, Simon, quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné le baiser, alors que elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. Et toi, tu ne m'as pas non plus donné d'eau pour me laver les pieds. » Donc il y a ici deux pensées qui sont similaires et qui sont indissociables l'une de l'autre. L'idée, ce n'est pas que tu ne m'avais pas fait la bise, tu ne m'avais pas suffisamment dit bonjour, tu ne m'avais pas serré la main, tu ne m'avais fait pas deux, trois, quatre bises. Ce n'est pas ça l'idée. La vérité, c'est que, tu vois Simon, tu m'as peut-être fait venir à ta table, mais la vérité dans ton cœur, c'est que je n'ai pas de valeur pour toi. tu ne me considères pas, tu ne m'estimes pas, je n'ai pas de valeur pour toi. Alors que cette femme a une énorme estime pour moi. Et ce baiser montrait à quel point l'autre, et comme Simon n'avait pas donné le baiser, ça montrait à quel point pour lui, Jésus, c'était sans plus. Mais Jésus a insisté en disant aussi, vous relirez, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. L'usage, s'il avait véritablement reconnu Jésus et s'il avait vraiment eu de la valeur pour lui, il lui aurait accordé le saint baiser, soit sur le front, soit sur la barbe, soit sur la joue, mais il lui aurait donné le baiser et il lui aurait lavé les pieds. Ou à minima, minimum de la correction en Orient à ce siècle, il lui aurait donné, présenté au moins de l'eau pour que Jésus le fasse lui-même, mais au moins il lui aurait présenté de l'eau pour le faire. Que Jésus le fasse lui-même. Mais lui, et Jésus lui dit, tu ne m'as même pas donné d'eau. Donc non seulement tu ne m'estimes pas, tu ne me considères pas à ma juste valeur, mais en plus, tu ne me sers pas. Parce que l'idée derrière le lavage des pieds, c'est de renoncer à soi, de s'abaisser et de servir l'autre, quitte à se rendre serviteur, c'est-à-dire littéralement dans la pensée, quitte à se rendre esclave de l'autre. C'est cet amour sacrificiel, amour, renoncement de soi qui pousse à s'abaisser et à se rendre serviteur. C'est ce que cette femme avait fait pour Jésus. Elle s'est humiliée devant lui et c'est une façon de dire, Seigneur, ma vie, elle t'est offerte, elle t'est totalement consacrée à ton service. Et c'est ce que Jésus est en train de faire pour ses disciples. C'est ce qui choque Pierre. C'est toujours le premier à parler parce qu'il parle un petit peu au nom du groupe, même si on ne lui a rien demandé, mais on sait que les autres, de toute façon, ils n'en pensent pas moins. Mais ils sont confrontés à ce moment-là, effectivement, au comble de l'amour. Et effectivement, ils n'ont jamais vu ce point culminant. Luc chapitre 15, la parabole du fils prodigue, c'est comme Matthieu 18, la parabole du serviteur impitoyable, ici on a Jean chapitre 13, il y a des points comme ça dans l'évangile, ce sont réellement des Everest de la révélation, ce sont des moments extrêmement forts, même si tout l'évangile et toute la parole sont magnifiques, on est d'accord. Verset 1er, il a mis le comble à son amour. Il y a ici un point culminant. Il veut les marquer, les choquer, faire comme un électrochoc dans leur cœur. Le lendemain, ça va être la croix. C'est la plus haute expression de l'amour de Christ, la plus belle expression de la grâce de Dieu. Et le Seigneur, à ce moment-là, va leur montrer toute la profondeur de sa nature. Alors, comme Jésus est à table et qu'ils sont bien d'accord que le plus grand, c'est celui qui est à table. Donc Jésus se lève, quitte la table, alors que le plus grand est celui qui est à table. Par ce geste, Jésus est en train de montrer qu'il quitte sa place. Tout ça nous montre, il y a un déroulé de ce que Jésus fait réellement, spirituellement pour nous, ce qu'il a fait aussi concrètement, matériellement, mais il l'image avec ce linge, il ôte ses vêtements, donc d'abord il quitte sa place de souverain, c'est ça que ça veut dire, le plus grand est à table, Jésus se lève, il quitte sa place de souverain, sa position, son rang, il renonce à sa grandeur légitime, lui qui est Dieu de toute éternité, il renonce à ses droits, à ses prérogatives divines, à ses privilèges, il renonce à tout ça, il s'en dépouille volontairement, librement, comme dit Philippiens 2, il ôte ses vêtements, il renonce à sa gloire, il renonce à sa majesté, à sa magnificence. Et il vient, comme dit Paul, Philippiens 2, prendre la forme d'un simple homme. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui de toute éternité est assis sur son trône. Qui est le plus grand des plus grands, au point qu'aucun mot humain ne peut réellement le décrire. Qui tout s'abaisse, s'humilie, s'incarne pour prendre notre condition, pour paraître, comme dit Paul, comme un simple homme. Quelle humiliation de quitter sa condition pour la nôtre. les disciples savaient que Jésus les aimait. Ils ne savaient pas à quel point Jésus les aimait. Pardonnez-moi, bien-aimés, nous savons que Jésus nous aime. Nous ne savons pas à quel point Jésus nous aime. Ce sont des révélations. Et par ce geste, lui qui est Dieu de toute éternité, renonce à sa gloire, à sa majesté. Et puis, il va, comme dit Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était revêtu de majesté, de magnificence. Et dans son incarnation, il n'avait rien pour attirer les regards. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus renonce à sa gloire. Et puis, il va se ceindre de ce linge. Et ce linge, en réalité, ce qui est déjà choquant pour les disciples, c'est que ce linge dont Jésus se ceint, c'est la tunique de l'esclave, de doulio en grec. C'est la tunique de l'esclave. Et il va se ceindre, il s'est dépouillé de sa gloire pour une misère extrême. Et ensuite, verset 5, non seulement le Seigneur a revêtu, comme dit Paul, l'apparence d'un simple homme, il est paru comme un simple homme, il a pris cette forme d'homme dans son incarnation, mais en plus il va aussi accomplir la basse besogne d'un esclave, parce que laver les pieds pour ensuite les essuyer avec le linge dont on est saint, C-E-I-N-T, vous avez compris, c'était une tâche si dégradante qu'elle était réservée aux esclaves. Et c'est pour cette raison que Pierre, alors qu'il a effectivement compris, confessé Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il sait très bien que Christ est l'élu de Dieu, il sait très bien qu'il est Dieu incarné. Et c'est pour cette raison que Pierre dit, jamais Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Implicitement dans sa pensée, certainement, même il a dû se dire, mais Seigneur, ce serait plutôt à moi de te laver les pieds, si tu me le demandais. Mais je le ferai, Seigneur. Et les autres, pareil, sauf Judas, mais les autres, pareil, certainement. C'est pour cette raison que Pierre dit, Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais Jésus insiste, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, c'est-à-dire si je n'accomplis pas cette œuvre, si je ne suis pas humilié jusqu'à la mort infâme de la croix, si je ne suis pas traité comme le pire des malfaiteurs, s'il n'y a pas l'effusion de mon sang saint, pur et éternel, il n'y aura jamais de rémission de péché, il n'y aura jamais de salut, tu n'auras jamais de part avec moi, c'est-à-dire il n'y aura pas de ciel, il n'y aura pas d'éternité, il n'y aura pas de vie à venir, il n'y aura pas de vie présente. Si je ne vais pas faire ça à la croix demain pour toi, Pierre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de discipulat, il n'y a pas d'église. Si je ne fais pas ça, il n'y a rien. C'est le seul plan possible pour que tu aies part avec moi ici-bas et dans l'éternité. C'est pour ça que Pierre lui dit, oh ben si c'est ça Seigneur, alors allons, tout, la tête, le corps. Non mais là, on était en train de parler, vous êtes déjà purs, vous m'appartenez déjà. Donc ensuite, on a cette robe blanche de justification. Et quand on marche avec le Seigneur, c'est ce que signifie cela, quand on marche avec le Seigneur, ben ça arrive qu'on se tâche. Mais là, on n'est pas en train de remettre en question notre vie chrétienne, notre nouvelle naissance, notre justification. C'est juste qu'il faut juste qu'on soit purifié de ce qu'on a commis dans la marche quotidienne. Mais on appartient au Seigneur. Celui qui marche avec moi n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Je ferme la parenthèse. Et Jésus reprend sa place, après avoir fait cela, Jésus reprend sa place, il se remet à table. Après avoir été abaissé pour un temps, dit l'Épître aux Hébreux, après avoir été abaissé pour un temps, Jésus, abaissé pour un temps au-dessous des anges, nous le contemplons maintenant couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2:9, Philippiens 2:9, que je citais tout à l'heure, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort infâme de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, Jésus reprend sa place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, tôt ou tard, fléchisse, tout genou fléchisse devant lui de gré ou de force, mais que tout genou fléchisse. Et là, la question du Seigneur, qui a dû être suivi d'un silence gênant parce que les disciples n'ont pas répondu à cela. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Et les disciples sont choqués parce que, comme je vous l'ai dit, les disciples savent que Jésus les aime. Ils savent que Jésus aime les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Je n'ai pas dit qu'il était d'accord avec eux. Il n'est pas d'accord avec leurs péchés, mais il les aime pour les attirer à la repentance et les sauver. Ils savent, à quel point Jésus aime les pécheurs, que Jésus les aime. Ils savent parce qu'ils ont vu pendant 3 ans et demi, ils ont vu l'amour de Jésus qui les a appelés. Ils ont vu l'amour de Jésus qui a guéri, l'amour qui a nourri, l'amour qui a délivré, l'amour qui a fait grâce, l'amour qui a pardonné, le récit de la femme adultère. Tout ça, forcément, c'est gravé en eux. Ils ont vu l'amour de Jésus qui nourrit les foules. Ils ont vu les différentes facettes, les manifestations de l'amour de Jésus. Ils ont vu tout ça. Mais le comble de l'amour, ils ne l'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais vu cet amour qui se dépouille, s'abaisse, s'humilie, au point que ça en est franchement, pour Pierre, c'est normal, on aurait tous réagi pareil, ça en était franchement dérangeant. Cet amour qui dépasse tout ce que je peux penser ou imaginer, qui ne tient pas dans mes 15 cm cubes de cervelle humaine, parce que ça ne se vit que dans l'être intérieur, c'est pas de l'intellect, c'est une révélation dans le cœur. Il faut qu'ils reçoivent la révélation de la nature profonde de Jésus, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'ils sont. Et la toile de fond, on ne l'oublie pas. Qui de nous est le plus grand ? Pierre, comme les autres, Pierre, tu n'as pas encore saisi la dimension, l'amour de Jésus pour toi. C'est pour ça que tu dis, Seigneur, tu ne peux pas t'abaisser, t'humilier à ce point. C'est pour ça que Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il n'y aura pas de salut, tu n'auras pas d'avenir. S'il n'y a pas cet amour sacrificiel, s'il n'y a pas ce renoncement, ce dépouillement extrême, il n'y aura rien, Pierre. Sans manquer de respect à personne, je me le dis aussi à moi-même, bien-aimé, nous savons que Jésus nous aime, mais nous ne savons pas à quel point Jésus nous aime. Jésus aime ce monde et les pécheurs. Vous ne savez pas à quel point il les aime. Vous savez que Jésus aime les uns les autres dans son corps, qu'est l'Église, sans aucune distinction, sans aucune préférence. Mais vous ne savez pas encore à quel point il aime la personne qui est assise à côté de vous, la personne qui est assise de l'autre côté de l'Église. Parce que jusqu'à présent, il y a des tas de choses que Pierre a comprises. Puis on ne peut pas l'accabler, parce qu'il faut reconnaître que Pierre, c'est quelqu'un d'obéissant. Les disciples sont obéissants. Souvent, ils disent des bêtises. Ils sont souvent en décalage. Mais quand Jésus dit quelque chose, tout le monde s'exécute, tout le monde rentre dans le rang, pas de souci. Et ils sont obéissants. Et ils ont vraiment tout quitté pour le suivre. Et ils ont fait des magnifiques expériences. Et ils ont connu déjà certaines dimensions réellement intéressantes de l'amour de Dieu pour eux et autour d'eux et pour les autres. Mais comme ils n'ont pas compris la nature profonde de Jésus, j'insiste, le comble de l'amour, c'est pour ça qu'il a tellement de mal à être le même avec tous. C'est pour ça que Pierre a des affinités avec certains disciples. Mais pour Jacques et Jean, il a juste du respect. Mais vous savez, bien aimé, quand dans les églises, on a des affinités avec certains, implicitement, ça signifie qu'on ne les a pas avec d'autres. Le Seigneur n'a pas d'affinité avec vous plus qu'avec moi, ce n'est pas possible. Le Seigneur n'a pas de préférence, ne fait pas de distinction. Vous savez que l'affinité, c'est le La mère nourricière, c'est le fondement, c'est la mère nourricière du clan. Qui dit affinité, dit esprit clanique. Et c'est ça qui tue les églises. Ce sont ces états d'esprit implicites dont on n'a pas forcément conscience, qui sont même parfois inavoués. Et avec Jacques et Jean, ils étaient dans le même groupe de disciples. Ils avaient du respect, mais pas une profonde considération, pas une réelle estime. Parce que Jacques et Jean, ils avaient leur clan, ils avaient leurs affinités. Pierre, André et d'autres, ils avaient leurs affinités. Et par conséquent, c'est pour ça que le Seigneur leur dit, mais si vous n'avez pas cette révélation, si vous ne comprenez pas à quel point je vous aime, mais vous serez toujours une église clanique. En réalité, vous allez continuer chaque fois que vous en aurez l'occasion, parce que des occasions, vous en aurez toujours, vous allez continuer à vous chicaner pour rien, pour débrouiller, parce que vous ne serez jamais sur la même longueur d'onde que moi, sauf après ce moment extraordinaire. Pardon, je sais, je suis un pasteur gênant, je suis même à la limite d'être un petit peu fêlé. L'un des plus beaux moments pour moi, le plus beau moment de la vie de l'apôtre Pierre et des disciples, c'est le moment où ils se sont tous plantés. Le moment où ils ont tous échoué, ils ont tous renié Jésus, parce qu'enfin ils étaient tous remis à niveau. Et sur cette base-là, le Seigneur est revenu les chercher avec une nouvelle révélation, avec sa grâce. Jean chapitre 20, Jean chapitre 21. Et là, mais le meilleur moment de la vie de l'apôtre Pierre, c'est le moment où il a compris qu'il n'y arriverait pas. Le problème de Pierre, ce n'était pas d'être incapable. Jésus le savait. En plus, il n'avait pas reçu l'Esprit. Jésus lui avait dit. Le problème de Pierre, ce n'est pas qu'il n'était pas capable. Le problème de Pierre, c'est qu'il s'est cru capable. Le problème de Pierre, c'est qu'il s'est cru meilleur. Le problème de Pierre, c'était sa présomption. Alors que je le redis, c'était, regardez bien, c'était un disciple obéissant. Et là, il lui faut cette révélation, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais une fois qu'il y a ce brisement de cœur, et une fois qu'ensuite il y a cette Pentecôte, le brisement de cœur, arrêter les ambitions, les prétentions personnelles, les affinités et l'esprit clanique, une fois tout ça dégagé, vient une réelle Pentecôte, et ensuite, après acte 2, la Pentecôte, on a acte 3. Qu'est-ce qu'on a, miracle de tous les miracles dans les actes des apôtres? Pierre et Jean marchaient ensemble. Ah ben voilà. Ah ben vous comprenez pourquoi les actes des apôtres, derrière, ça marche. À ceux-ci, verset 34-35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, mais quel amour parlons-nous? Ah ben ça y est, j'ai compris Seigneur, de quel amour tu es en train de me parler maintenant. Si vous avez cet amour les uns pour les autres, parce que si vous n'avez pas cette révélation, vous ne serez pas des serviteurs selon mon cœur. Le monde ne pourra pas connaître, le monde ne verra pas. En vous, le monde ne me reconnaîtra pas, moi Jésus, il ne me reconnaîtra pas au milieu de vous. Mon esprit ne pourra pas relâcher sa présence, mon esprit ne pourra pas manifester sa joie et sa puissance. Et le monde ne connaîtra pas. Ce moteur de vie, je termine avec ça, bien-aimé. Ce moteur de vie, nous l'avons compris pour les frères, pour les uns comme pour les autres. Paul dira, c'est l'amour, Paul dira plus tard, dans la même pensée que Jean 13, par amour, agapé, c'est toujours l'amour sacrificiel. Rendez-vous serviteur, douloio, en grec, le même mot que nous avons lu tout à l'heure, en Luc, les uns les autres, allélon, les uns les autres, remplis de l'amour de Jésus, rempli de sa nature, de son état d'esprit. Rendez-vous douloio, serviteur, allélon, les uns les autres. Qu'est-ce qui va pouvoir, j'insiste, pardon, qu'est-ce qui peut changer le cœur d'un disciple au plus profond de lui-même. Qu'est-ce qui peut le changer, le transformer? Qu'est-ce qui peut lui donner l'état d'esprit de son Seigneur? La morale, tu pourrais faire un effort quand même. Des règles, quand vous pensez que même la loi de Dieu, qui est parfaite, n'a pas le pouvoir, dit Paul aux Romains, n'a pas le pouvoir de changer nos cœurs. Qu'est-ce qui peut me changer, me transformer au plus profond de mon être? Mes efforts personnels? Mais tout ça, c'est vain et charnel. Pierre et les autres ont essayé, ils étaient tenus en échec. La seule chose qui peut me transformer, me métamorphoser, c'est de recevoir, non pas dans mon intellect, mais dans mon cœur, de recevoir la révélation du comble de l'amour de Jésus pour moi et pour les autres. Et de comprendre à quel point Jésus aime n'importe quelle partie, n'importe quel membre de son corps qu'est l'Église. Vous savez que Jésus vous a accueilli, mais vous ne savez pas à quel point il vous accueille. Vous avez compris que ses bras sont ouverts pour vous. Vous ne savez pas à quel point les bras sont ouverts. Vous savez que Jésus vous a pardonné. Vous ne savez pas à quel point il vous a pardonné. Vous savez qu'il aime vos frères. Vous ne savez pas, pardon, à quel point il aime vos frères. C'est cette révélation, et puis on aura occasion d'en parler plus tard aussi, c'est cet indispensable travail de l'Esprit en moi, ma communion, ma relation personnelle. Romains chapitre 5, je ne l'ai pas mis ici, pardon. Romains chapitre 5, Paul dit, c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit, pardon, qui déverse l'amour de Christ dans mon cœur. L'amour de Jésus est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La révélation et la communion du Saint-Esprit va faire de moi que je ne serai plus jamais le même. Voilà le principe spirituel bien-aimé, voilà le chemin, voilà l'état d'esprit qui doit remplir, animer, faire vivre comme un moteur chaque disciple, chaque membre de l'Église, afin que l'Église reste une Église approuvée, bénie de Dieu, prospère, heureuse, crédible aux yeux du monde, et que l'Esprit puisse accomplir toutes ses œuvres en vous et au milieu de vous. Amen. On se recueille, s'il vous plaît. Soyez bénis. Merci pour votre attention. Merci, Seigneur.